Laure et Quentin, bonjour.
Bonjour.
Merci de vous être levé tôt ce matin. Vous êtes tous les deux formateurs et formatrices et je profite de votre passage dans le Royan et même juste en face des studios de la radio pour vous inviter dans notre matinale. Donc merci d'avoir fait l'effort de vous lever. Si vous êtes de passage en ce moment, c'est pour le festival Le Maquistan, le festival des résistances qui a eu lieu ce week-end à Vassieux en Vercors. Vous étiez là pour animer des ateliers, on va en parler. Et d'ailleurs, Radio Royan y était également. Alors vous, vous accompagnez des collectifs, et notamment sur la question de l'engagement pour durer dans le temps, on pourrait dire, de s'engager de manière à en y intégrant davantage de soins, on va y revenir. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, peut-être un petit mot par rapport à l'actualité, puisque le hasard du calendrier fait que votre présence était prévue depuis un moment, mais ça tombe en plein dans une période de résultats des élections européennes, et on peut dire que vos actions peut-être s'inscrivent à l'encontre de la tendance actuelle, vous diriez ça ?
Oui, on peut dire ça comme ça. On a une tendance politique aujourd'hui qui va, une tendance politique et sociétale, qui va à l'accélération, qui va au conflit, qui va à l'exacerbation de la haine des uns, des unes et des autres. Et là, c'est ce que fait le gouvernement actuel. Il joue avec le feu, puisqu'il a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et que on pourrait bien avoir le Rassemblement national au pouvoir dans moins de 3 semaines. Alors que nous, ce qu'on propose sont justement des ateliers, des formations, des accompagnements pour dépasser les clivages, dépasser les conflits, essayer de mieux se comprendre, en fait, mieux se comprendre soi et mieux comprendre les autres.
Quentin, toi aussi, tu partages cet avis par rapport à l'actualité ?
Ouais, carrément. Je pense que face au repli sur soi, qui est prôné par certaines parties politiques, nous, on essaie d'amener du lien et du prendre soin, qui va aussi construire de la communauté. Voilà.
Donc, relier plutôt que diviser, on pourrait dire.
Exactement.
Et du coup, vous avez un objectif, c'est de réconcilier quelque part la question de l'engagement, les milieux militants, les gens qui s'engagent, mais autant dans les associations que dans les collectifs, dans les mouvements politiques, on pourrait dire.
Oui, dans les hôpitaux, les écoles, en fait, il y a des gens qui s'engagent partout.
C'est la notion d'engagement au sens large. Vous avez envie de réconcilier cette manière de s'engager avec une approche plutôt de soins, on pourrait dire, est-ce qu'on pourrait dire de développement personnel ?
Oui, parfois c'est un mot qui peut faire peur. Pour nous, c'est important de repolitiser le bien-être tout en amenant des questions de soins et de bien-être au sein des engagements, et notamment des engagements associatifs et politiques.
Donc, politiser le bien-être, mais aussi faire des milieux militants, des espaces plus doux où on prend en compte le soin. Du coup, vous aviez 2 ateliers là-dessus ce week-end au Maquistan. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en donner quelques bribes de quelle thématique et puis comment ça s'est passé ?
Le contenu, oui, on a choisi d'animer 2 ateliers parmi ce qu'on propose. Un premier qui s'appelait « Épuisement militant et système nerveux ». Donc là, on pourra en reparler, mais on vient vraiment travailler sur la notion d'engagement et de ce qui nous permet de lutter ou de s'engager dans la durée, mais en prenant en compte les fonctionnements et les réactions automatiques de notre système, donc de notre corps, notamment les réactions automatiques face au stress, face au danger, qui s'inscrivent dans notre histoire, qui sont liées à nos traumas passés, qui sont liées à tout un tas d'éléments de notre vie. Et le 2e atelier était sur soins et oppression systémique. Alors c'est un bien grand mot, oppression systémique, c'est
oui,
tout ce qui
ça
est...
Ça peut faire peur, on va en dire quelques mots.
C'est ça, mais ce sont dans les milieux militants notamment, ou pour les personnes qui s'engagent, dans toute la société en fait, tout ce qui est sexisme, racisme, islamophobie, sont des choses qui nous traversent et où il y a beaucoup de tensions, en fait, de conflits, parce qu'on ne sait pas comment traverser ça. Et donc l'idée de ce 2e atelier, et je laisserai Quentin parler du premier, mais le 2e atelier visait à apprendre, à mieux se comprendre pour dépasser, pour arriver à en parler, en fait, à dire ce qui nous convient, à dire ce qui nous convient pas, à poser des limites et à ce qu'elles puissent être entendues.
Oui, déjà c'était très bien présenté. Je pense que pour le 1er atelier, ce que je trouve important, c'est en fait notre système nerveux, il va définir aussi notre façon de percevoir le monde. Donc c'est pour nous, il y a cet entrelacement entre l'individuel et le collectif, le systémique. Et donc comment en fait être au contact de ces mécanismes de défense, ça permet aussi d'être au contact des mécanismes de défense des autres. Et comment on peut créer du lien à l'intérieur, notamment en prenant soin, enfin, de ses propres mécanismes, mais aussi de comment ça résonne dans les autres et comment on se met en lien à travers ça.
Et du coup, dans ces ateliers, est-ce que du coup il y avait du monde? Est-ce que c'est des approches qui, parce que c'est un peu, je sais pas si on pourrait dire innovant, mais en tout cas c'est peut-être des approches qui décalent un peu par rapport à ce que les militants militantes ont l'habitude de côtoyer. Et dans ce festival des résistances là au Makistan ce week-end, est-ce qu'il y a eu du répondant au niveau des participants participantes?
Oui, alors tu soulignes un point qui est pour moi est très vrai, qui illustre beaucoup la façon dont fonctionne notre société occidentale et notre société française en particulier. C'est que quand on s'engage, on a tendance à aller vers une culture du héros ou de l'héroïsation, de l'héroïne, on le dit comme on veut. Mais en tout cas, il y a cette idée que quand on prend des responsabilités, on devient indispensable et donc il faut tenir, même quand on a des problèmes familiaux, des problèmes de santé. Quand on trouve ça difficile de vivre l'actualité, par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc là, en fait, on amène à prendre le contre-pied de ça. Et en fait, on voit que ce qu'on propose répond à une demande. En fait, nos ateliers ont reçu beaucoup de monde. Il y a même un autre atelier à côté qui a dû s'annuler parce qu'il n'y avait personne. Donc on voit qu'il y avait, pour le nombre de personnes présentes, c'était beaucoup. On devait avoir 20, 30, 40 personnes, plutôt 40 personnes à chaque atelier. Les personnes, en fait, ça leur fait du bien. Et puis surtout, à la fin des ateliers, elles viennent nous voir et elles sont mais pleines de gratitude. Elles nous remercient parce qu'en fait, elles n'ont pas l'habitude d'entendre qu'elles ont le droit de se respecter, qu'elles ont le droit de s'écouter et de faire ce pas de côté qui, sur le moment, paraît terrible parce qu'on a l'impression que tout va s'effondrer et que si on n'est pas là, le projet n'avancera pas. Alors qu'en réalité, c'est ce qui permet de le faire tenir dans la durée.
Oui, je rajouterais que ce thème du soin en milieu militant et dans l'engagement, c'est des choses qui existent depuis longtemps, mais vraiment c'est venu sur le devant de la scène au moins depuis à peu près un an et demi, et ça prend de plus en plus d'ampleur et les gens sont de plus en plus ouverts et ouvertes à ces questions-là. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir aussi des gens qui viennent même pour un atelier de 2 heures, déposer, se rencontrer, explorer ce qui les touche. Et c'est vraiment un beau moment aussi, quoi.
On pourrait dire que oui, vous essayez peut-être d'accompagner des gens qui vont avoir une tendance à une posture assez sacrificielle, c'est-à-dire je m'engage dans un collectif, je m'engage dans une association, je m'engage sur mon territoire, qu'il soit rural ou urbain, et je n'ai plus le droit de flancher. Et vous, ce que vous proposez, c'est peut-être de prendre en compte que ben on est des humains et des humaines, et que c'est peut-être comment vous pouvez accompagner ces gens-là à peut-être déculpabiliser si je sais pas, ils ratent une réunion, ils sont pas là à la prochaine action. Ils tiennent pas H24, quoi.
S'ils admettent que ce ne sont pas des machines, en fait. bien, il y a plusieurs façons d'amener ça. La première, c'est de comprendre. Donc, c'est d'amener du savoir, tout simplement, de comprendre les réactions de notre corps, comprendre qu'en fait, qu'il y a des mécanismes automatiques à l'intérieur de nous qui sont contrôlés par le système nerveux autonome et qui, selon notre histoire, vont nous amener à réagir de telle ou telle manière. En fait, déjà, de comprendre qu'il y a une partie qui est dans l'automatique liée à notre vécu, à notre éducation, à notre hommage, je le disais il y a un instant, en fait, ça permet déjà de déculpabiliser. Alors, ça ne veut pas dire se dédouaner entièrement, on a quand même une part de responsabilité, mais ça permet de mieux se comprendre. Et l'autre point, c'est d'amener aussi du savoir sur la dimension systémique. En fait, quand on comprend qu'en fait, on est baigné dans une culture qui nous pousse à ça, ça nous permet de reprendre du pouvoir pour arriver à faire ce pas de côté dont on parlait. Et ça, c'est la question du pur savoir cognitif, du savoir théorique. Mais ensuite, nous, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est vraiment faire de la pratique et de l'expérientiel. Donc, on est dans des ateliers très participatif, où il y a du travail en petits groupes, en binôme, en grand groupe, mais qui va intégrer du mouvement, par exemple. Et le fait de le vivre dans le corps, le fait de vivre de la vulnérabilité, de la rencontre avec l'autre, le fait de vivre des temps de respiration, en fait, tout ça va faire qu'on va le sentir à quel point ça nous fait du bien. C'est-à-dire que c'est pas mental, on va pas dire aux gens, faites ci, faites ça, c'est bien pour vous, faites-le pour votre bien, mais c'est plutôt, on vous propose ça, qu'est-ce que ça fait dans vos corps? Et là, les personnes souvent réalisent qu'il y a du chemin.
Oui, je rajouterais qu'une des choses qui peut nous toucher quand on est dans une phase d'épuisement ou au bord de l'épuisement, c'est aussi la sensation de solitude, d'affronter ça seul. Et donc, nous, dans nos ateliers, ce qu'on aime bien, c'est du coup de mettre les gens en lien et juste de pouvoir partager sur leur expérience. Ça permet aussi de sentir qu'on est soutenu, de voir qu'on n'est pas seul à traverser ça. Et pour nous, c'est important.
Et du coup, là, il y a ces ateliers que vous avez menés ce week-end au Makistan, mais ça prend part dans votre activité plus globale d'accompagnement de collectif. Est-ce que dans cette démarche d'accompagnement de collectif, vous observez que les gens s'épuisent, ça on l'a dit, ont une posture un peu de machine à des moments qui remonte à voilà à l'organisation de notre société. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus structurel autour de l'organisation des collectifs ou de la manière dont on s'organise quand on a une lutte qui nous tient à cœur, qu'on a envie de changer le monde dans lequel on est?
Je dirais que c'est une vaste question.
C'est la question de 7h57.
Ouais. Mais oui, en partie, il y a de ça. La façon dont les groupes se structurent et la façon dont on parlait de ce grand terme d'oppression systémique, en tout cas dans la pratique, il y a des choses qui se jouent autour des rangs, des pouvoirs, des privilèges. Et là, en fait, la façon dont le collectif va être structuré, ça va avoir un impact direct sur la manière dont les gens traversent ces questions-là. Et alors, pour chaque groupe, il va y avoir une structure différente. Et là, tout l'enjeu d'accompagner le collectif, c'est de trouver, à partir de la manière dont organiquement il s'est créé, comment on va les aider à structurer par rapport aux choses qui sont importantes pour elles et eux.
Et je rajoute un élément, c'est qu'il y a plusieurs façons de fonctionner, mais les deux extrêmes, c'est qu'il y en a qui sont dans le contrôle, donc très hiérarchiques, très directifs, et en fait, là, ça manque beaucoup de souplesse, parce que les personnes qui s'engagent, en fait, elles le font avec leur cœur, avec leur trip, donc elles sont parfois étouffées par des manières de faire qui sont beaucoup trop dans le contrôle. Et à l'opposé, il peut y avoir la tyrannie de l'absence de structure. Et beaucoup parfois même confondent ça avec l'anarchie, alors que ça n'a strictement rien à voir. Hein. Dans anarchie, en fait, dans le symbole même de l'anarchie, il y a le O de organisation. Donc ça n'a rien à voir. Mais en fait, cette tyrannie de l'absence des structures, parfois, peut être épuisante à terme. Et donc, en fait, l'idée, c'est de trouver un juste milieu entre le trop de contrôle, l'absence de structure et justement les moyens pour que chaque personne à l'intérieur se sente bien.
Oui, parce que l'absence de structure, on le sait, fait rejouer les rapports de pouvoir, fait rejouer d'autres mécanismes qu'on connaît bien. Mais du coup, en vous écoutant, je me dis, ça concerne aussi le monde professionnel. Finalement, il y a peut-être des auditeurs, auditrices là qui nous écoutent et qui se disent, ben oui, moi, dans ma structure, qu'elle soit associative, mais aussi, dans le médico-social ou dans d'autres...
Dans la culture,
chez les artistes, exactement, mais aussi dans d'autres champs de notre société, notre manière de nous organiser nous épuise parce qu'on tient beaucoup sur la conscience professionnelle des personnes, on le sait par exemple à l'hôpital public par exemple, ou dans l'éducation nationale, mais du coup est-ce que ça vous arrive d'accompagner d'autres types d'organismes que des collectifs militants ou que des associations, par exemple plus le monde professionnel?
Alors pour moi associatif ça peut être bénévole ou professionnel,
c'est vrai,
et donc
ouais.
On accompagne aussi des ONG nationales. Que je ne vais pas forcément nommer parce que je ne sais pas à quel point c'est confidentiel, mais on accompagne toutes sortes de structures et notamment en contexte très officiel, très professionnel en fait, avec les règles légales qui s'appliquent à ces structures-là. Et ça me fait penser ce que tu dis à un élément qui est pour moi clé et qui en fait concerne tout le monde, c'est qu'on a totalement oublié ou jamais appris pour beaucoup de personnes en Occident et en France à communiquer, à se relier, à être dans l'authenticité. En fait, souvent dans des façades et des mécanismes qui ne nous respectent pas nous-mêmes et qui ne respectent pas les autres. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont très simples et il y a des outils, en fait, des pratiques qu'on transmet, en tout cas qu'on essaie de transmettre au mieux et qui permettent vraiment parfois de fluidifier les choses très simplement. Et ne serait-ce que apprendre à dire les choses quand elles commencent à nous énerver, par exemple, quand ce sont des petites tensions, avant qu'elles deviennent d'énormes conflits. En fait, rien que ça, ça fait parfois un cataclysme dans la façon de fonctionner de la structure professionnelle ou bénévole.
Oui, je rajouterais que c'est pour ça aussi qu'on a développé une formation sur les conflits pour venir en prévention, parce que souvent on nous appelle un peu trop tard et les conflits sont déjà là, voire même sont allés trop loin. Et donc du coup, c'est pour ça aussi qu'on a eu à cœur de développer à la fois la formation pour aider les gens à prévenir, en tout cas à rentrer en communication et à maintenir le lien au sein du conflit. Et puis après nos accompagnements qui permettent quand même avec une personne tierce, de venir soutenir l'expression de chaque personne au sein du conflit.
Du coup, il s'agit de désamorcer, de prévenir, plutôt que d'arriver en pompier une fois que c'est déjà la catastrophe dans les collectifs ou dans les organisations. Et plus personnellement, ça vous vient d'où ces approches-là? Parce que de quelle théorie ou bagage ça vous vient d'avoir envie de faire ça et de vous retrouver là aujourd'hui à répondre à cette demande qui, on le voit, il y a des attentes, il y a de la demande, quoi.
Ça vient de beaucoup de pratiques. En fait, on s'est formé à beaucoup de choses. Moi, je pense que j'ai passé pas la totalité, mais une grande partie de mon salaire. Parce que pendant des années, j'étais salariée, maintenant je suis indépendante. Mais pendant toutes mes années de salariat, je crois que j'ai mis une très grosse partie de mon budget dans me former et dans des formations qui, en fait, coûtent cher et sont souvent peu accessibles aux personnes qui n'ont pas les moyens. Donc, en fait, je passe une partie de mon temps à justement apprendre toutes ces choses qui sont dans un milieu très capitaliste, en fait, qui, dans un milieu presque du bien-être, mais... dans un milieu du bien-être de business, en fait, très financiarisé. Et donc, je prends ces méthodes, ces outils, ces savoir-être, et je les transmets et je les apporte dans les milieux où on n'a pas les moyens de se payer ça, et où donc, justement, ça permet de rediffuser du savoir et du savoir-être. Et donc, parmi ces pratiques, il y a plein de choses. La première, celle qui m'a beaucoup inspiré et fait grandir, c'est la communication non violente. Mais la communication non violente... Le problème en France, c'est qu'elle est souvent amenée d'un point de vue très dépolitisé, qui ne prend pas en compte la question des rapports de pouvoir et des oppressions systémiques.
Assez individuel, on pourrait dire, dans des rapports interpersonnels.
En tout cas, de la façon dont elle est transmise en France, oui. Et souvent, elle est même utilisée par des personnes de façon très oppressive. Puisqu'il y a des personnes qui vont l'utiliser, qui après vont, quand une personne en colère va venir les voir, va dire « Non, mais tu n'es pas très CNV, va te calmer, reviens me voir plus tard. » Ce qui est le principe même de base de la silenciation des personnes qui n'en peuvent plus, en fait, et pour qui la colère, c'est leur dernière ressource. Donc, moi, je me suis beaucoup formée en communication violente, mais avec des amis, ensuite, on a formé un groupe autogéré sur la question des pouvoirs et des privilèges pour justement venir compléter cette approche de CNV. Et donc, maintenant, je donne des ateliers, pas de CNV officiel parce que je ne suis pas certifiée, mais d'une approche très similaire avec l'intégration d'un angle systémique. Et après, on s'est formé à tout un tas de pratiques comme quelque chose qui s'appelle IFS, Internal Family System, qui est une pratique qui permet de renouer avec les différentes parts de soi, qui est extrêmement puissante pour, en fait, sortir de la culpabilisation et sortir des tiraillements intérieurs. Et là, plus récemment, bon, après, il y en aurait plein d'autres, mais plus récemment, on continue de se former tous les deux dans une autre pratique jargonnante, ou en tout cas anglophone, qui s'appelle la Somatic Experiencing. Et la somatic experiencing, en fait, c'est une pratique que je trouve incroyable parce qu'elle travaille sur le système nerveux et elle permet vraiment de faire le lien entre ces questions systémiques, de comment se structure et fonctionne la société, comment fonctionnent nos liens et notre système nerveux à l'intérieur de nous. Voilà, c'est une façon de faire. Et après, bien sûr, il y a toutes nos pratiques à nous et notre vécu. Moi, ça fait 10 ans que j'évolue en milieu militant, que je crée et fonctionne avec différents collectifs. Et donc, en fait, il y a toute une partie qui vient tout simplement de l'expérience.
Oui, moi j'ai commencé comme thérapeute individuel il y a 5 ans et en fait avec mon engagement notamment écologique, j'étais confronté et j'ai traversé plein de collectifs et en fait très rapidement il y avait ce truc de se dire en fait au-delà de l'individu il y a le collectif et comment on fait collectif ensemble. Donc au départ c'était vraiment pour moi avoir des clés dans les collectifs que je traversais et puis en fait ça a été vraiment une découverte et une passion et notamment avec Laure Lapacité mais avec le process work qui est un outil où on est en cours de certification, qui est un outil d'exploration des conflits à la fois en groupe et à la fois avec des différents canaux de perception, donc dans le mouvement, dans l'art, voilà, plein de choses différentes. Et dans les processus de groupe, c'est un des seuls outils qu'on a en France pour pouvoir traiter les conflits en groupe. Alors ça peut être vite challengeant parce qu'en fait ça vient nous confronter directement à plein de choses à l'intérieur de nous et notamment notre rapport traumatique au conflit. Mais voilà, c'est plein d'outils comme ça qui m'ont en fait progressivement fait passer de l'accompagnement individuel à l'accompagnement collectif en sentant qu'il y avait quelque chose là-dedans qui se jouait.
Finalement un peu des passeurs et passeuses de tout un tas d'outils finalement qu'on comme Exactement. Un entonnoir et après on rediffuse je dis on parce que je fais ça aussi mais avant de se quitter justement dans cette période, c'est pour un peu boucler la boucle sur la période dans laquelle on vit, qui est extrêmement violente, qui est extrêmement clivante entre les groupes de personnes, entre les individus, et là du coup votre approche, on disait, elle va un peu à l'encontre de ça, ou en tout cas elle propose quelque chose qui relie, qui dépasse les préjugés les uns sur les autres, enfin des choses dont on aurait besoin pour vivre ensemble, en fait, faire communauté. Est-ce que vous auriez, je sais pas moi, des idées, des propositions pour cette période qu'on a là en ce moment de soins communautaires? Moi, il y a des choses que je vois passer un peu sur soit de la liste des diffusions ou les gens autour de moi qui, par exemple, se regroupent. On a vu dans plusieurs villes en France, les gens sont spontanément sortis dans la rue, se regrouper, faire collectif, donc dans une forme un peu classique de rassemblement ou de manifestation. Mais nous, dans nos territoires ruraux, peut-être, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut passer cette période qui est particulièrement anxiogène, qui peut réveiller des traumas transgénérationnels par exemple, mais aussi actuels. Est-ce que vous, là je vous prends un peu de cours, mais est-ce que vous avez des idées ou des choses à proposer?
C'est une grande question.
Oui, c'est une grande question.
Tu veux aller peut-être sans sortir des propositions de formation ou autre, parce que ça, les personnes, les auditeurs, auditrices pourront aller trouver des ressources en ligne. Mais juste, pour moi, la première chose, c'est d'être en lien. Et là, donc, nous, on est basé à Saint-Jean-en-Royans actuellement, là, pour quelques jours. Il y a une amie qui, suite à l'annonce de la dissolution, m'a tout de suite envoyé un message en proposant qu'on se retrouve pour justement pour discuter, partager nos coups de gueule ou nos joies ou nos espoirs quant à la situation actuelle. Et donc ça, pour moi, en fait, c'est dont on a besoin, puisque la dépression, par exemple, qui est quand même un des grands maux de notre siècle, notamment en France, hein, grand consommateur d'antidépresseurs. Et bien pour moi le contre-pied à prendre, la solution, l'antidote, voilà, cherchez le mot, l'antidote à ça, c'est quand même la mise en lien, c'est la communauté. Et aujourd'hui, on est dans une société qui est profondément individualiste, qui a été, où on a eu des politiques publiques qui ont tendu à ça, des influences de consommation, de marketing, le capitalisme en fait et le libéralisme, qui nous ont conduit à cet individualisme. Et pour moi, la base de l'évolution dont on a besoin aujourd'hui, c'est de sortir de cet individualisme, ces individualités, et donc refaire communauté, et donc se retrouver, tout simplement se retrouver, parler. Et il n'y a pas besoin de s'être formé en machin truc anglophone pour savoir faire ça. En fait, c'est un espace, un trottoir, une table dehors, de pique-nique, je sais pas, pour recréer du lien.
Se consoler, se réconforter.
Se consoler, oui.
Oui. Carrément. Et pour moi, c'est un premier pas vers une forme d'engagement, quelle qu'elle soit. Et en fait, l'engagement, ça permet de retrouver une forme d'agentivité, de maîtrise d'une partie de son environnement. Et donc, avoir la sensation qu'on peut faire quelque chose, que ça peut changer, qu'on peut s'engager en communauté. Pas dans un truc très individualiste, mais plutôt en communauté. Et pour moi, c'est un premier pas aussi pour arriver à sentir qu'on peut avoir un impact et donc se sentir bien.
J'ajouterais quelque chose de tout petit, hein, mais c'est que parfois, couper les informations, couper la radio, alors pas celle-ci, ouais. Mais quand même, en fait, parfois on est addict au flot d'informations qui arrive de toutes parts et qui est profondément anxiogène, surtout si on regarde la télé. Donc il y a vraiment une invitation à parfois s'offrir des temps de pause, en fait, d'arrêter ce flot d'informations continu et anxiogène, et puis dormir, en fait, c'est la base, mais... Bien dormir, ça fait partie de ce qui nous permet de tenir sur le long terme.
Et d'ailleurs, ce matin, vous avez accepté de rogner sur votre temps de sommeil pour venir. Du coup, des outils assez simples, du sommeil, du soin, de l'écoute de soi-même. Si on sent que c'est anxiogène, couper le fil d'information. Et des fois, on s'autorise pas à le faire parce qu'on se dit faut garder le contact avec tout ce qui se passe. Mais en fait, on peut le faire. Voilà, autant de conseils assez simples, mais importants. Laure et Quentin, merci beaucoup d'être venus ce matin. On va continuer notre direct dans cette matinale. Et quelque chose me dit qu'on va vous retrouver bientôt dans les parages, peut-être, si vous trouvez où vous installer dans le coin.
Exactement.
Et on aura l'occasion de reparler de ces thématiques sur nos ondes. Merci beaucoup.
Merci Céline.